7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi. Et aujourd'hui, quelle place pour les langues locales à l'école sur le continent africain? Comme a posté cet auditeur Abdoulaye de Dakar, en Afrique, l'enseignement en langue locale reste un problème parce que les langues sont très nombreuses et chaque ethnie veut apprendre dans sa propre langue. Et c'est encore plus compliqué, probablement, la réalité. Plusieurs expérimentations ont montré que quand l'enfant reçoit un enseignement dans sa langue maternelle, il apprend mieux, que cela évite le décrochage scolaire. Mais alors, dans ce cas, comment davantage intégrer les langues locales dans le cursus scolaire? Quelle politique possible lorsque plusieurs langues cohabitent, notamment dans des pays où il y a de nombreux déplacements de population du fait des conflits? Je pense par exemple au cas de la RDC. Les langues locales sont-elles un remède miracle pour pallier les défaillances des systèmes éducatifs? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités. Bonjour Nicolas Quin.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche en linguistique africaine au CNRS, au sein du laboratoire Langage, Langue et Culture d'Afrique. Vous êtes spécialiste des langues locales au Cap-Vert, Sénégal, Soudan, Guinée-Bissau également. Christelle Mignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pôle langue française au sein de l'association Solidarité Laïque. Vous venez de passer 4 ans au Mali et vous travaillez sur l'éducation bi- et plurilingue au Mali et au Sénégal. Et d'ailleurs, je vous pose d'emblée la question, est-ce qu'on peut continuer à parler de langue locale quand certaines langues sont parlées par plusieurs millions de population, de personnes? Si on parle de langue nationale, c'est compliqué à l'étranger pour comprendre quel est le sujet. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme mot, finalement, pour désigner ces langues?
Moi, normalement, je parle simplement de langues africaines, puisque ce sont des langues qui sont parlées sur le continent africain.
Et vous?
Et en didactique, on parle de langue première ou langue maternelle.
Voilà. Bon, alors donc on dira plus langue locale aujourd'hui, même si nos auditeurs continuent de poster des messages en utilisant cette expression-là.
D'un point de vue de l'élève, on va plutôt effectivement parler de langue première.
D'accord.
La langue de son environnement immédiat et de sa famille.
D'accord. Bon, on continuera quand même pour être sûr que tout le monde comprenne. Hein. On dira les deux, on parlera aussi des langues locales. Auditeurs, amis, voisins et voisines, ne nous en voulez pas. L'idée, c'est qu'on soit le plus efficace possible et qu'on sache de quoi on parle. On sera aussi en ligne à Niamey avec Roua Boukarkoura, qui est directrice de la promotion des langues nationales au sein du ministère de l'enseignement primaire au Niger. Et on entendra un jeune entrepreneur nigérian. Il a créé l'appli Zanafri pour apprendre avec des jeux le Yoruba, le Hausa à des enfants. Et puis bien sûr, les voisins et les voisines, que vous soyez parents, enseignants ou ex-élèves, racontez-nous vos expériences linguistiques. Vous êtes déjà nombreux à nous contacter depuis hier. Je vous rappelle notre numéro de téléphone et WhatsApp, c'est le même, 33 1 84 22 60. 71. Et en fin d'émission, comme chaque vendredi, la chronique de Marie-Rose Moreau. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, pourquoi les adolescents aiment s'engager? Je vous rappelle que Marie-Rose Moreau est pédopsychiatre. Je vous lis quelques messages que bien sûr vous pouvez commenter. Mahamadou est à Bamako et nous dit: un enfant de 7 ans qui rentre à l'école parle sa langue maternelle. Quand il arrive à l'école, l'enseignement est en français. L'école, l'élève peut passer des années sans comprendre cette nouvelle langue. Cela favorise la déperdition scolaire ici au Mali. C'est ce que vous avez constaté, Christelle Mignot, au Mali.
Oui, tout à fait. Et même pire que ça, outre la déperdition scolaire, on considère que 85% des enfants en Afrique subsaharienne terminent leur cursus de l'école primaire sans avoir acquis les connaissances de base, lecture, écriture, mathématiques. Oui. Donc même ceux qui ne sortent pas de l'école n'apprennent rien ou quasiment rien.
Un véritable gaspillage, surtout quand on voit ce que ça coûte aux États. Thierry est à Port-au-Prince en Haïti. En 1990, nous dit Thierry, le ministère de l'Éducation a proposé une réforme où l'enseignement en premier et deuxième cycle serait créole haïtien. Mais encore aujourd'hui, l'apprentissage se fait en français, qui est une seconde langue pour nous. La performance des élèves s'en ressent. Pardonnez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Eric est à Yaoundé au Cameroun, il a 27 ans. Et voici ce qu'il envoie comme message. C'est l'État qui a favorisé la disparition des langues locales au Cameroun. Quand nous étions petits, on nous imposait de nous exprimer uniquement en français. Si on utilisait notre langue maternelle, on nous accrochait le symbole. Le symbole était une sorte de collier fait d'escargot pourri et qui sentait mauvais. Celui qui le portait était exposé, évidemment, aux moqueries des autres. Nicolas Quin, Christelle Mignot, quand on écoute le témoignage d'Eric, il n'a que 27 ans, donc c'est assez récent. Ça existe encore, ce genre de brimade, Nicolas Quin, à votre connaissance?
Alors, je pense que ça existe encore, même si c'est en régression. Je pense surtout qu'il faut comprendre que ça s'inscrit dans une tradition très ancienne et qui a commencé en France, hein, où les langues régionales, alors il se trouve que j'en
le
parle
breton,
une,
le basque,
l'occitan, les langues régionales ont été en fait combattues systématiquement dans le cadre scolaire, au moyen des mêmes méthodes. Donc finalement, on n'a fait qu'exporter à d'autres endroits du monde ce qui avait déjà été mis en place sur le territoire français au sens strict pour les langues différentes du français. Et puis, il faut aussi être conscient que d'autres communautés linguistiques avec un poids politique et démographique conséquent ont recouru exactement aux mêmes méthodes pour détruire les petites langues des territoires qu'elles contrôlaient. Donc ça, c'est un problème du combat entre les grands et les petits.
Christelle Mignot.
Même constat, effectivement, et cette façon de disputer et de punir l'enfant a créé un complexe. Moi, je le vois, enfin, je l'ai vu à Bamako.
Parce
les gens se sentent.
Sa langue maternelle, hein.
C'est
quand même très violent.
Donc, on leur impose une scolarisation dans une langue inconnue, donc c'est impossible. On ne peut pas apprendre quand on ne comprend pas la langue. Et je remarque qu'à l'âge adulte, il y a beaucoup de personnes qui se sentent complexées par rapport au français. Parce que pendant toute leur scolarité, on leur a dit, mais tu ne sais pas parler, tu es nul, tu ne vaux rien. Alors que pour eux, ben, impossible d'apprendre si on ne comprend pas.
Allez, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Quelle place pour votre langue maternelle ou paternelle à l'école, dans les systèmes scolaires? Vous pouvez bien sûr nous appeler dès maintenant.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Et tout de suite, écoutez le message posté par un voisin du Togo.
Bonjour les auditeurs, bonjour les auditrices de l'émission 7 milliards de voisins. Bon, je réponds au nom de Constantin Balaké Mabidi et je suis togolais en Afrique francophone. Dans les écoles, on privilégie le français. On renie par contre les langues locales. Par exemple, moi je suis au Togo, bon, nos langues locales, il y a le V, il y a le Kabyé, vous voyez. Alors quand vous voyez, souvent il y a les enfants des riches. Dès le bas âge, leurs parents leur parlent le français à la maison. Et quand ils commencent l'école, eux, ils s'assument très bien en français. Et quand le professeur passe le cours, ils comprennent mieux la langue que les enfants des pauvres. Et c'est ce qui fait que souvent, dans les devoirs, les compositions, bon, l'enfant a souvent de mauvaises notes. Hein, comment on va faire pour éradiquer ce problème? On explique les cours en français, on traduit ça dans les langues locales et que ça va amener l'élève à mieux comprendre le cours. Et je pense qu'en faisant cela, bon, les cours vont passer normalement et il n'y aura plus d'échecs.
Il n'y aura plus d'échecs. Christelle Mignot.
Tout à fait d'accord. Effectivement, le monolinguisme français en Afrique francophone subsaharienne est à la base de beaucoup d'inégalités. Pour le Mali, on considère à peu près 20% de francophones uniquement. Or, l'enseignement est à 80-90% monolingue. Donc, on a quasiment 80% de la population qui n'a pas accès au savoir de l'école.
Oui. Nicolas Quint, il ne s'agit pas de dire qu'il faut éradiquer une langue internationale qui sert aussi à communiquer avec des pays voisins sur un même continent. Ce n'est pas ça le fond du débat.
Je ne pense pas. Je pense que bon, le fond du débat, comme l'a dit
Christelle,
merci. Le fond du débat, je pense que c'est une question déjà d'inégalité. C'est-à-dire que, alors, comme le disait aussi l'auditrice, très justement, il y a des niveaux de connaissances différents de la langue scolaire, bon, en l'occurrence le français, et il y a des secteurs entiers de la population qui n'ont pas accès au français. Elles pourraient sûrement l'apprendre de façon plus efficace si déjà on respectait leurs connaissances. Et de plus en plus, y compris d'ailleurs dans les classes où il y a une forte proportion d'immigrés en France métropolitaine, on incite les enseignants à prendre en compte cette diversité pour permettre aux élèves de progresser. Donc ça, c'est simplement avoir une étude ouverte et ne pas stigmatiser les gens pour ce qu'ils sont.
Ouais, c'est pas réellement ce qui se fait non plus tellement sur le terrain en France. Hein. Il y a peu de valorisation des langues d'origine des élèves qui viennent de familles immigrées, on peut le constater quand même.
Alors de plus en plus, hein, c'est ce qu'on appelle, alors justement il y a quand même un concept là, qui a été développé depuis quelques années de glottophobie, qu'on ne doit pas discriminer les gens aussi bien sur leur accent que sur leur profil linguistique. Alors c'est quelque chose qui fait des progrès, hein, ça, c'est clair, c'est loin d'être parfait, mais je pense que la société française a vraiment pris conscience de ça plus qu'avant, et il faut, parce que sinon effectivement on n'exclut. Et un système scolaire, c'est fait pour permettre à chacun d'exprimer son potentiel, pas pour exclure les gens qui entrent dans l'école. Ouais.
Alors, je vous lis le message de Ludovic, qui est camerounais à Saint-Étienne en France. Il est enseignant contractuel en ce moment dans une école publique de la ville. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas nous appeler. Il est en cours. Et voici le message qu'il a posté. J'ai grandi sans les langues locales de chez nous. Donc, il a grandi au Cameroun. Notre langue d'usage, c'était le français. La seconde langue, c'était l'anglais. Et avec le recul, je pense qu'il faut continuer à enseigner en français et en anglais. Car pour les études supérieures, ça nous donne plus d'ouverture pour des études à l'étranger. Moi, j'ai fait ma terminale au Mali, nous raconte Ludovic, qui est camerounais. Mes camarades qui avaient commencé leurs études en Bambara avaient du mal à s'exprimer en français. Et au Cameroun, ils pensent qu'il aurait fallu intégrer l'anglais très tôt, comme le français. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la situation? On va dire, quelles sont les expérimentations les plus intéressantes? Et surtout, qu'est-ce qu'un apprentissage en langue locale réussit, finalement? Quelle ouverture ça demande? Quel type de bilinguisme? Quelle organisation, Christelle Mignot?
Alors, ce qui est important, c'est que l'enseignement dans les premières années se fasse en langue, qu'on accueille en fait l'enfant dans sa langue nationale, et surtout, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup d'expérimentations ratées, que ce qui est apporté par l'enseignant en langue nationale soit un plus par rapport à ce que l'enfant a appris dans sa famille. À un moment, on a vu des expérimentations bilingues où l'enfant arrivait et à l'oral, on lui apprenait à se présenter, par exemple en bambara, à aller faire ses courses en bambara, à dire ses émotions, des choses qu'il a déjà apprises dans sa famille. Donc il est vraiment important dans les expérimentations bilingues que l'apport en langue nationale soit complémentaire. Apprentissage de la lecture, apprentissage de l'écriture, apprentissage des maths et des autres matières, sciences, etc.
Ouais. Nicolas Quin, vous, qu'est-ce que vous avez constaté si on prend le cas du Sénégal, par exemple? Où en est le Sénégal aujourd'hui? Bon, c'est un pays qui est relativement épargné par le multilinguisme par rapport au Gabon, à la RDC. On a 10 millions de personnes qui parlent le Wolof.
Mais il ne faut pas dire épargné par le multilinguisme. Le multilinguisme, c'est très beau. Hein, c'est justement les gens ont une diversité culturelle. Alors au Sénégal, il y a une grande langue de communication interethnique qui est le Wolof et qui effectivement est parlée probablement par au moins 80 ou 90% de la population. Il y a aussi beaucoup d'autres langues. Et alors le Sénégal, les législateurs sénégalais sagement ont justement décidé, je crois, dès l'indépendance, que plusieurs langues auraient un rang de reconnaissance, pas seulement le Wolof. Alors dans les faits, c'est vrai que le Wolof est véhiculaire, mais il y a aussi dans des régions entières du pays qui parlent Sérère, Diola, Peul. Et je pense que justement, l'État sénégalais a pris en compte ça dès le départ, qu'il fallait valoriser l'ensemble du patrimoine. Alors il y a des expérimentations bilingues, je pense que Christelle en parlera mieux que moi, il y a des expérimentations bilingues qui introduisent le Wolof, en particulier dès la maternelle, qui est ensuite suivi du français. Alors dans les endroits wolophones, ça évidemment ça conforte les élèves dans les connaissances qu'ils ont déjà acquises à la maison. Alors dans les zones non wolophones, c'est plus compliqué parce que justement la langue maternelle des gens c'est pas forcément
le wolof. Et ils seraient en droit de demander du sérère par exemple pour les petites classes.
Voilà, ou du wolof, ou du diola, ouais. Exactement. Et alors le grand problème que ça pose, c'est qu'effectivement faut développer du matériel pédagogique et de la formation de formateurs pour beaucoup de langues différentes. Alors le Sénégal, c'est un État où il y a quand même beaucoup de recherches sur les langues qui ont été faites. Il y a des États qui n'ont sûrement pas les ressources du Sénégal dans le domaine.
Alors, on va revenir à la question des moyens qui est évidemment primordiale. Je vous lis le message d'Ousmane qui est dans la région de Ségou au Mali. Mon fils de 12 ans est en 8e année dans une école privée. Les cours sont en français. Dans les écoles publiques, c'est un enseignement en langue maternelle. Les résultats ne sont pas bons car les élèves arrivent au secondaire avec un niveau très bas en français. Ceux qui en ont les moyens quittent l'école publique car enseigner en langue locale a fait baisser le niveau. Voilà, c'est ce que pensent beaucoup de familles.
Alors, oui, effectivement. Le problème, c'est que souvent, quand les réformes bilingues ont été annoncées, les moyens n'ont pas suivi. La formation initiale des profs n'a pas été mise à jour, les modules de formation continue non plus, les enseignants n'ont pas forcément de matériel méthodologique et les apprenants n'ont pas forcément de manuel scolaire.
Donc la réforme, quand on annonce une réforme pour du bilingue, on se retrouve avec en fait une seule langue nationale.
Non, non, il y a plusieurs langues nationales, oui, mais le problème, mais c'est que les...
Là, c'est ce que semble dire Ousmane, finalement. C'est...
Non, non, il y a, ouais. Pour le Mali, il y a 13 langues nationales.
Oui, oui. Non, mais je veux dire, quand on annonce qu'il y a du bilingue et une langue autre, finalement, le bilinguisme coûte très cher. Donc, est-ce que ça veut dire que, du coup, c'est le français qui en pâtit dans ces cas-là?
Non, pas du tout. Je pense que les programmes bilingues sont pertinents. Le souci, c'est que parfois, le calendrier ministériel ne correspond pas au calendrier des enseignants et qu'on annonce une réforme qui est cohérente, que les programmes bilingues qu'on met en place sont cohérents, mais qu'on n'équipe pas les enseignants pour qu'ils puissent correctement réaliser leur travail bilingue. Et du coup, effectivement, il y a eu énormément d'expérimentations qui ont échoué, faute de moyens. Et c'est un des grands problèmes, c'est que maintenant, les parents ont peur et considèrent que l'enseignement bilingue n'est pas qualitatif.
Vous avez constaté ça aussi dans les différents pays où vous avez travaillé, Nicolas Quin. L'écart entre les politiques publiques sur le papier, leur application, la réalité dans les salles de classe?
Oui, alors bon, moi je suis moins spécialisé je suis moins spécialiste du milieu scolaire, mais par contre je travaille en immersion sur les langues avec lesquelles je travaille, et donc je vois comment les gens réagissent. Alors, par exemple au Cap-Vert, où maintenant ça fait 25 ans que je me rends régulièrement, il y a une tension évidente, mais dans l'ensemble de la société, entre le désir de reconnaissance du Cap-Verdien qui est parlé, alors là, quasiment par 100% des gens.
Qui est une langue créole, on peut dire.
Voilà, c'est un créole à base portugaise, avec des éléments aussi d'origine ouest-africaine.
Qui est parlé partout, y
Absolument
compris
partout.
Dans le débat politique.
Oui, y compris dans le débat politique. Au Parlement, maintenant, on peut parler en créole ou en portugais, et les débats sont transcrits dans les deux langues.
Et donc... à l'école?
Ben alors, l'école, c'est le problème, c'est que théoriquement, l'enseignement est monolingue portugais. En pratique, quand vous passez, enfin moi ça m'arrive pendant mes enquêtes de terrain, quand vous passez près des écoles, vous entendez quand même beaucoup de conversations en créole, puisque c'est la langue d'absolument tout le monde. Et il y a eu des écoles bilingues, qui ont été ouvertes il y a 7 ou 8 ans maintenant, je dirais, et qui ont pas mal fonctionné, qui est expérimentale, où il y avait un professeur pour le Cap-Verdien, un professeur pour le portugais, et chacun, l'horaire était coupé en deux, et toutes les matières étaient enseignées soit en cap-verdien, soit en portugais, en fonction de l'horaire. Hein, donc la seule différence, c'était l'horaire. Et un professeur était associé à chaque langue, ça marchait bien. Et à un moment, les écoles ont commencé à se répandre, et puis on est revenu en arrière, Alors c'est très intéressant, parce que les gens trouvaient ça intéressant, mais on est revenu en arrière parce qu'il y avait aussi une peur, justement, la peur que si on enseigne plus en cap-verdien, on va moins savoir le portugais. La langue du pouvoir au Cap-Vert, c'est le portugais. Et donc, et cette peur, elle est chez les décideurs et dans la population. Donc, il y a une tension, je pense, générale dans ces sociétés entre le désir de reconnaître un patrimoine qui est de fait le bien commun des gens, et le désir d'ascension sociale, qui est aussi un désir très naturel chez les gens. Et ça, c'est une contradiction dure à résoudre.
Et la peur aussi d'hypothéquer l'avenir de ses propres enfants, en faisant les mauvais choix.
C'est ça. Et pourtant, là, je parle des initiatives ÉLAN, enseignement en langue nationale, un programme de l'OIF, dans des écoles expérimentales où les enseignants ont été formés, équipés, et les manuels de l'élève finalisés. On considère que les enfants qui ont suivi ces cursus bilingues ont 3 fois moins de chances de quitter l'école, 5 fois moins de chances de redoubler au cours de leur cursus primaire, et qu'ils atteignent à la fin de l'école primaire un niveau en français supérieur à ceux qui ont étudié dans des écoles monolingues en une année de moins. Donc souvent, effectivement, les ministères disent « non, on ne va pas déployer les dispositifs bilingues parce que ça coûte trop cher ». Et en réalité, si on considère les économies liées au fait qu'il y aura moins de redoublement, moins d'enfants qui quittent l'école et plus d'enfants qui terminent l'école primaire en ayant les connaissances de base, on considère que les gouvernements seront gagnants, y compris au niveau économique.
Une question soulevée par un voisin qui est en Guinée-Conakry. On l'écoute, il a posté sur WhatsApp. Je vous rappelle le numéro 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous aussi sur la ligne de téléphone maintenant, on est en direct.
Allô, bonjour les voisins et les voisines, je suis Diallo de la Guinée-Conakry. L'intégration des langues locales dans le cursus scolaire est d'une grande importance. Aujourd'hui, je me pose la question sur la zone spéciale de Conakry. Nos grands-parents, nos aînés nous racontent souvent qu'à l'époque révolutionnaire, au temps du premier régime, que les langues locales étaient enseignées sur toute l'étendue du territoire national guinéen, où toutes les ethnies sont représentées presque. Vouloir intégrer les langues locales dans une école, par exemple, ce serait très très difficile quand on sait qu'il y a l'ethnie A, l'ethnie B, l'ethnie C qui se rencontrent dans une seule école. Quelle sera la langue qui sera enseignée à toute cette diversité d'élèves, d'apprenants?
Oui, c'est une vraie question qui va pas s'arranger parce que avec l'exode et avec l'arrivée de populations rurales de différentes régions, c'est le cas dans plein de pays du continent, qui arrivent dans les villes vont devenir de plus en plus multilingues ou pas, Christelle Mignot?
Oui, absolument. Mais si on lit les rapports d'expérimentation, c'est un, entre parenthèses, faux problème. Souvent, effectivement, les gouvernements nous disent le choix des langues est trop complexe, il y a des conflits ethniques, on ne pourra pas choisir, il n'y aura jamais d'homogénéité linguistique dans une salle de classe. Impossible pour nous de définir ou de choisir une langue. Et en réalité, on constate que lorsqu'on on confie ce choix des langues à la collectivité, au chef de village, à l'association de parents d'élèves, au chef d'établissement, c'est beaucoup moins problématique. Que ce choix ne soit pas imposé d'en haut, mais que ce soit les personnes intéressées, les élèves et leurs parents, qui choisissent une langue. Par ailleurs, il y a des possibilités au sein d'une école de faire des regroupements linguistiques dans les classes. Donc, quand on confie la décision au niveau local, ça fonctionne.
C'est ce que vous avez observé aussi, Nicolas Quint.
Oui, alors bon, je pense d'abord, bon, il y a beaucoup de... Bon, vous voyez, une ville comme Dakar est une ville multiethnique, mais en pratique, presque tout le monde parle le Wolof. Donc, prendre en compte le Wolof, ça ne poserait pas un gros problème. Après, il y a des endroits où c'est beaucoup plus compliqué. Je travaille, j'en profite pour les saluer, dans un village Bainouk de Casamance, Djifangor, qui a environ 700 habitants permanents, peut-être un peu plus avec la diaspora, et qui est triethnique, hein, enfin, ou tri-communautaire. Donc, moi, je travaille avec les gens qui parlent le Bainouk, qui doivent être à peu près 300 au niveau du village. Et il y a aussi des Mankagnes, et il y a aussi des Diola. Tout le monde va dans la même école. Ça serait sûrement très compliqué de couper les classes en trois pour prendre en compte chaque langue nationale. Alors en pratique, les gens, bon d'ailleurs c'est assez impressionnant, justement parler du multilinguisme. Donc les Bainouk de Djifangor parlent pratiquement tous six langues, mais couramment.
Ah oui. Hein,
c'est-à-dire ils ne disent pas seulement bonjour, français, Wolof, Diola, Mankagne,
le Bainouk. Si vous nous écoutez, on vous salue. Hein,
c'est et vrai. Casamance, oui, ouais, c'est des problèmes, des champions du multilinguisme.
Mais ça pose quand même le problème de la préservation de ces langues.
Ben voilà, alors justement, pour des communautés de si petite taille, à l'heure actuelle, les linguistes, en tout cas, n'ont pas de solution. Alors, heureusement, les Bainouk, qui continuent, ils font très attention. Sinon, je pense que le Bainouk aurait déjà disparu. Ils font très attention à le parler à leurs enfants. Mais on n'a pas pour le moment, en tout cas, de solution technique pour booster ou supporter de si petites communautés dans le cadre scolaire. C'est compliqué. Ça pose un problème parce que c'est le patrimoine que détiennent ces gens a une valeur. Et là, on n'a pas pour le moment de réponse vraiment satisfaisante, à part encourager les gens à maintenir ce qu'ils possèdent.
Alors, on parle des langues locales et des langues maternelles, paternelles sur le continent africain. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à un auditeur qui est à Abidjan. Bonjour, c'est Sédou.
Bonjour, madame.
Soyez le bienvenu, c'est Sédou, on vous écoute.
Merci beaucoup. J'avoue que j'ai pas suivi tout ce que vous avez dit jusque-là, mais je voulais juste intervenir sur un petit point, notamment le point relatif à la promotion des langues par les promoteurs eux-mêmes et le comportement qu'ils ont. Nous avons parfois des parents qui se plaignent en disant que les promoteurs de ces langues eux-mêmes à l'école, ils mettent leurs enfants dans des écoles où on n'apprend pas, on ne commence pas l'apprentissage par ces langues. Donc pour eux, c'est une manière de les berner en disant que c'est ce qu'il faut, mais eux-mêmes, les enfants, ils ne les amènent pas là-bas, d'une part. Et d'autre part, je voudrais aussi insister sur un aspect de la présence des langues africaines sur les réseaux sociaux, la digitalisation des langues africaines. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, ils sont tous férus des réseaux sociaux, Facebook, etc. Mais lorsque on leur dit que votre langue est importante pour l'apprentissage, soit. Mais en même temps, ces jeunes-là, ils ont envie que quand ils vont sur Facebook, par exemple, si on leur dit que leur langue est importante, qu'ils voient leur langue, évidemment, ça les rassure. Mais on a beau leur dire que leur langue est importante, mais chaque fois qu'ils vont sur les réseaux sociaux, jamais ils voient la présence de leur langue. Alors, ils se posent des questions. Donc, il est important concomitamment d'expliquer la digitalisation de ces langues et leur présence sur les réseaux sociaux si on veut réellement contribuer. Et enfin, Je voulais insister sur un aspect, c'est le point relatif à la promotion des cultures africaines en éducation. Vous savez, la langue, c'est le meilleur vecteur d'une culture. Et aujourd'hui, les critiques sont faites sur le fait que les cultures africaines sont au marge sans que des écoles, et les enfants sont donc formés, ils ne sont pas enracinés dans leur culture, parce que les langues qui véhiculent leur formation n'ont rien à voir avec leur culture. Donc déjà, en commençant dans les premières années, leur formation dans leur langue nationale, c'est aussi une manière indirecte de promouvoir leur culture, les cultures dont ils émanent. Donc voilà quelques points. Bon, on n'a pas le temps peut-être de les approfondir, mais je voulais juste jeter ces idées-là dans le débat.
Non, mais merci à vous beaucoup, hein, Seydou, de nous avoir appelé pour soulever ces deux points. Vous avez tout à fait raison. Sur les réseaux sociaux, c'est très clair. Hein, les jeunes vont changer de langue immédiatement dès qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les groupes de langues, peut-être, hein, je ne sais pas, mais... Et puis surtout sur le problème de... Finalement, vous avez soulevé une forme d'hypocrisie, ou pas d'ailleurs, de ceux des intellectuels qui font la promotion des langues du continent, des langues africaines, et qui tiennent à mettre leurs enfants dans des écoles bien francophones ou bien anglophones. Mais est-ce qu'on pourrait parler d'une forme de schizophrénie, finalement, à l'intérieur de chacun d'entre nous, parfois, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Quin ?
Oui, je pense que c'est très général. Actuellement, il y a beaucoup de membres des élites françaises qui se préoccupent avant tout de ce que leurs enfants maîtrisent bien l'anglais, tout en défendant un corps et un cri de la francophonie. Donc je pense qu'en fait, c'est une contradiction générale dans tout être humain. Le besoin de défense du patrimoine propre et celui d'acquérir d'autres langues, d'autres connaissances pour aller plus loin.
Nous sommes en ligne, on avait du mal à la joindre par téléphone, Madame Roua Boukarkoura, de la directrice de la promotion des langues nationales au sein du ministère de l'enseignement primaire au Niger. Bonjour Madame Boukarkoura. Le temps passe et la pendule est inexorable, hein, dans son comptage et son défilé de minutes, mais nous tenions à vous donner la parole malgré tout, Madame Boukarkoura, parce que le Niger mène plusieurs expérimentations depuis plusieurs années d'enseignement, d'introduction des langues locales et d'introduction du français ensuite progressivement. Comment ça se passe aujourd'hui? Et puis dites-nous vraiment, de manière très résumée, je m'en excuse, quels sont les résultats intéressants à l'heure actuelle?
En tout cas, après plusieurs années d'expérimentation, nous avons pu maîtriser les différents outils des langues nationales, à savoir l'orthographe, la grammaire, l'alphabet, conjugaison, tout ça, pour pouvoir mettre en pratique l'enseignement en langue nationale. Parce que les premières années d'expérimentation, là, les 30 dernières années, c'était pour essayer de voir si ça peut vraiment marcher. Et en conclusion, ça peut marcher. Les évaluations ont été concluantes. Actuellement, nous avons commencé à expérimenter l'enseignement en langue nationale dans 5 langues nationales sur 10 qui sont au Niger.
Oui.
Les 10 langues nationales.
Dans lesquelles, donc?
C'était en Hausa, en Fulfulde, en Kanuri, en Tamajek et en Zamasoral. Donc, on avait commencé avec 500 écoles. On a élaboré tous les manuels, les guides des enseignants en langue nationale. On a élaboré des dictionnaires, des conjugaisons, des outils, de tout ça, maths, langue nationale, tout ça, on a eu des manuels. Après une première évaluation, dans la première année, dans les 500 écoles pilotes, cette évaluation a été concluante et nous avons étendu à 5000 écoles, toujours dans les 5 langues nationales. Et après, on a étendu aussi à 3 autres langues nationales, qui sont le Gourmanchoma, le Bouduma et le Toubou.
Pour l'ensemble du territoire, et à chaque fois, les enseignants sont bien sûr formés pour enseigner dans ces langues et introduire aussi du français au fil des années.
Oui, les enseignants sont formés pour enseigner en langue nationale. Parce que l'enseignant, c'est sa langue nationale, c'est la langue qu'il parle dans son milieu, mais il n'a pas été formé pour enseigner en langue nationale. Donc, à chaque fois qu'on veut entrer dans une école, il faut former l'enseignant pour qu'on lui apprenne à utiliser les outils, les supports, manuels, guides, là, en langue nationale.
Encore faut-il il faut que l'enseignant soit muté dans une région dont c'est la langue, parce que c'est pas systématique, ça.
Oui, pour le moment, tous les enseignants que nous avons formés, ce sont les enseignants qui parlent la langue du milieu de leur école. Mmh.
Je voudrais vous poser une dernière question, Roua Boukarkoura. Avec la menace djihadiste qui pèse sur l'école, notamment parce qu'on y enseigne en français, certains pensent que les langues locales peuvent permettre une meilleure intégration de l'école dans les communautés. Le fait d'enseigner essentiellement dans des langues africaines, dans les langues nationales. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, nous allons voir utiliser l'enseignement en langue nationale, c'était surtout de commencer les apprentissages là par les langues nationales pour mieux apprendre à faire les apprentissages en français. Parce que l'enfant qui commence à enseigner, à apprendre sa langue nationale, maîtrise mieux, c'est pourquoi on enseigne et après il a accès à la langue.
Mais je vous posais la question par rapport à la menace djihadiste. Est-ce que l'enseignement des langues nationales pourrait préserver l'école de la fureur de la menace djihadiste?
Non, quand on dit Boko Haram, ça veut dire tout ce qui est école est banni. Que ce soit en langue nationale ou en français, pour ces djihadistes-là, c'est banni.
Eh ben merci pour votre réponse très simple. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Roua Boukarkoura, directrice de la promotion des langues nationales au sein du ministère de l'enseignement primaire au Niger. Nicole Akin, je voudrais qu'on dise un petit mot du Soudan, parce que là on parle des pays qui vivent des conflits, où les langues sont bien souvent aussi instrumentalisées dans ces conflits.
Bien sûr. Alors dans le cas du Soudan, moi je travaille avec une communauté, donc les Koalibs. Et les Koalibs, le pays Koalib est à peu près coupé en deux, entre une partie contrôlée par le gouvernement et une partie contrôlée par une rébellion. Et donc avec des politiques culturelles très différentes, parce que dans la partie gouvernementale, c'est l'arabe qui est la langue scolaire, bon, ce qui est la tradition au Soudan depuis longtemps. Et dans la partie tenue par la rébellion, l'administration locale a décidé de supprimer l'arabe et de le remplacer par l'anglais. Donc la langue traditionnelle dans les deux cas, c'est le koalib. Donc on se dit... Pourquoi le Koalib n'est pas à l'école? Parce que justement, il n'y a pas du tout de matériel scolaire. Et alors, ce qui est frappant, c'est que finalement, quand les gens ont voulu remplacer l'arabe, ils ont dû recourir à une autre langue qui n'est pas non plus la langue maternelle de la population, puisque maintenant, la plupart des Koalibs parlent soit l'arabe, soit le Koalib comme langue maternelle. Mais donc, dans la partie qui a refusé l'arabe, c'est l'anglais qui est utilisé, qui n'est pas non plus leur langue maternelle.
Ouais, conclusion.
C'est très compliqué de développer des systèmes scolaires qui soient en adéquation avec les pratiques des populations.
Christelle Mignot, un mot de conclusion sur la problématique des langues africaines à l'école. Et puis ensuite, on entendra un entrepreneur, puisqu'on parlait du numérique, qui propose de l'apprentissage via les téléphones. Mais ça ne simplifiera pas non plus les politiques publiques de l'éducation.
Moi, je dirais que le bilinguisme a fait ses preuves. Il faut maintenant, et de manière urgente, rassurer les parents, rassurer les décideurs et leur montrer de manière très concrète comment fonctionne le bilinguisme et quels sont ses bienfaits.
Voilà. Alors, pourquoi ne pas enseigner les langues locales africaines en dehors de l'école et à un très jeune âge via des applications mobiles? C'est ce que s'est dit un jeune entrepreneur nigérian, Idamiebi Ilamina Eremi. L'appli qu'il a fondée en 2016 s'appelle Zenafri et ça permet... par le jeu, d'enseigner aux enfants leur langue maternelle. Charlie Dupiot l'a rencontré, les yeux rivés sur l'écran de son smartphone.
Alors voilà, quand vous ouvrez l'appli, vous voyez tout de suite un enfant et vous pouvez choisir votre langue. Anglais, Swahili, Yoruba, Haoussa, Igbo.
Là, on peut lire Lanuka.
Oui, j'ai lancé l'appli en langue Haoussa et la première icône qu'on voit apparaître, c'est Lanuka, qui veut dire couleur. Et vous voyez là, à côté de ce ballon bleu, on peut lire Choudi. Choudi signifie bleu en Haoussa.
On a écrit Choudi, donc bleu en fait en Haoussa, puis on voit la balle bleue là dans un décor un peu désertique avec une colline derrière verte et un arc-en-ciel. Et en fait là, c'est vraiment une façon d'apprendre le mot bleu en Haoussa et de savoir l'écrire.
So you see the color blue. On voit la couleur bleue. On peut aussi lire ce mot et on l'entend pour apprendre à le prononcer. Ça aide sur trois aspects.
Là, on a aussi les chiffres. Alors, les chiffres, c'est l'embobine, c'est ça?
Yes. Vous voyez là les deux parapluies? L'enfant doit tapoter sur l'écran du téléphone au niveau de ses parapluies. Les parapluies se ferment, se rouvrent, et là, hop, on voit apparaître le chiffre 2. On leur apprend aussi à nommer les objets qu'on voit dehors, les voitures, les camions, les arbres. Et comme nous voulons vraiment nous adresser aux enfants, il y a aussi un jeu que nous proposons sur l'appli. C'est un jeu interactif, où sur l'écran, les animaux tombent littéralement du ciel. Là, vous voyez, on peut toucher le cheval sur l'écran pour l'empêcher de tomber. On nous dit « bien joué » et le mot « horse » apparaît, « cheval » en anglais. Cette application permet aussi d'apprendre l'anglais, mais on peut bien sûr jouer pour apprendre le Hausa, la langue Igbo ou le Yoruba. Sur notre application, une partie du contenu est en libre accès, gratuit. Par exemple, les enfants peuvent apprendre à nommer les formes et les parties du corps sans que leurs parents aient à débourser quoi que ce soit. Mais pour d'autres sections comme les chiffres, l'accès est payant.
Combien ?
Ça coûte 1$ pour avoir accès à chaque catégorie différente de mots. On s'adresse surtout aux enfants très jeunes qui ont entre 1 et 3 ans. Ce sont eux qui peuvent le plus bénéficier de cette application.
Et pourquoi ça vous semble important de leur apprendre aussi à parler et à lire et écrire leur langue maternelle en fait ?
Pour moi, la langue fait partie intégrante de notre identité. C'est la langue qui nous donne une place dans ce monde. Ma langue maternelle est l'Okrika. C'est une langue qui vient de l'état de Rivers, au sud du Nigeria, dans la région de Port Harcourt, d'où je viens. Typiquement, quand j'étais enfant, j'ai grandi sans rien connaître de cette langue. C'est aussi pour ça que j'ai voulu lancer cette application. Ma langue, même encore aujourd'hui, je ne la parle pas couramment du tout. Je la comprends, mais je ne la parle pas. Mes parents sont de classe moyenne, et ils nous parlaient anglais à la maison. Donc oui, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est un regret, et je veux éviter autant que possible à d'autres d'avoir ce même regret. Vous imaginez, mon pays, le Nigeria, compte plus de 200 langues locales à lui tout seul. Et comme beaucoup d'autres, ma langue locale est menacée, peu de gens la parlent. Nous devons faire l'effort de la garder vivante. Chaque langue vient avec une culture, des valeurs. Même si on est de plus en plus connecté au monde, on n'a pas envie d'oublier d'où l'on vient.
L'application a été téléchargée par 40 000 personnes au Nigeria, surtout évidemment dans les grandes villes comme Abuja, Lagos ou Port Harcourt. L'apport du numérique, c'est quelque chose qui peut changer la donne, Christelle Mignot, sur le bilinguisme, faire cohabiter des langues africaines, des langues nationales et des langues internationales.
Oui, tout à fait. Et là, je vois deux avantages principaux de ce type d'application. C'est que l'enfant apprend de manière ludique, donc il apprend sans s'en rendre compte. Et la deuxième chose, c'est qu'il est actif. C'est lui qui va être sur son application, toucher les animaux, etc. Et on remarque souvent que les problèmes d'apprentissage en Afrique francophone subsaharienne sont liés au fait que l'enseignement est trop transmissif. Donc plus on va rendre l'enfant actif dans son apprentissage, plus il apprendra.
On racontait depuis le début de l'émission que la meilleure solution dans le bilinguisme, c'est l'arrivée progressive d'une langue internationale, que ce soit le français, l'anglais ou le portugais. Ça serait ça l'idéal, et de démarrer avec une langue maternelle ou paternelle, la langue de l'enfant, celle qu'il parle à la maison. Il y a des expériences, je crois que c'est au Cap-Vert, Nicolas Quin, où par exemple les maths, en fonction du prof, de la langue qu'il maîtrise, on mélange les langues pour une seule matière.
Alors c'est-à-dire, si j'ai bien compris, puisque j'ai visité deux ou trois fois en particulier l'école de Ponta d'Água dans la banlieue de Praia, oui, le principe pédagogique c'était d'associer une langue à un enseignant et pas à un cours. Donc, l'horaire des élèves était coupé en deux, et ce qui comptait, c'était que le même enseignant parle toujours la même langue. Les deux étant de toute façon des instituteurs formés, ils pouvaient dispenser les maths ou les...
Sachant que ce n'est pas du tout une généralité au Cap-Vert, c'était des expériences...
Tout à fait, c'était des écoles bilingues expérimentales. Alors je pense qu'à un moment il y en a eu plus de 10, et je pense que là ça a reculé. Mais le principe c'était d'associer un enseignant à une langue.
Ouais, ça vous semble quelque chose de... C'est une bonne chose ou pas finalement, Nicolas Quin? Ça crée pas de confusion dans la tête de l'élève d'associer la langue à l'enseignant et pas à la matière?
Ben alors, j'ai pas l'impression, parce que enfin, justement, un des grands problèmes au Cap-Vert, c'est la confusion. Alors, c'est sûrement général dans beaucoup de pays, mais là, le créole capverdien, qui est la langue maternelle de la plupart des gens, est à base lexicale portugaise, donc ça favorise les confusions, parce qu'il y a, des parties recouvrantes dans les systèmes, surtout pour le lexique. Et donc, je pense que c'est peut-être lié à la situation capverdienne. Je pense qu'effectivement, c'est bien que les élèves aient dans la tête qu'avec une personne, ils vont avoir le capverdien, avec l'autre, ils vont avoir le portugais, parce que plus que dans d'autres endroits, il y a vraiment cet enjeu de séparer les langues, enfin d'avoir conscient dans l'esprit de l'élève qu'il a deux registres distincts. Donc c'est peut-être pour ça aussi qui a poussé les gens à développer ce système. Quand j'ai visité les écoles, en tout cas, ça n'avait pas l'air de traumatiser les élèves.
Bon, en tout cas, la question est complexe, aussi complexe que le nombre de langues sur le continent africain. Dimanche, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Dans un monde idéal, ça serait de l'alphabétisation bilingue. C'est votre souhait, Christelle Mignot?
Ah oui, oui, absolument. D'ailleurs, c'est ce qu'on met en place dans l'ONG pour laquelle je travaille, Solidarité Laïque. On travaille sur des projets d'alphabétisation des adultes en zone rurale et évidemment, on propose en première langue la langue nationale.
Et ça marche.
Ça marche.
Merci à tous les deux, Christelle Mignot, Solidarité Laïque, Nicolas Quin, directeur de recherche en linguistique africaine au CNRS. Merci à Roua Boukar-Koura d'avoir été en ligne avec nous pour le ministère de l'enseignement primaire au Niger. Dans quelques instants, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs, à retrouver également en podcast. Ça sera juste après Lingala. Adja. Where she learned to move like that, I don't know. Where she learned to move like that, I don't know. No, 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 no. No other girl like her. Sweeter than African Fanta. Big Bobby, she gets it from her mama. Congolese, but she no speak Lingala. Oh, parlez-vous français? She said, oui, je parle français. Bonjour, ça va bien. Long story short, I don't wanna be friends, no. Fine girl, take time, wind your waistline. Your body got me like, ooh. Where she learned to move like that, I don't know. Where she learned to move like that, I don't know. No, 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 no. No other girl like her. Sweeter than African Fanta. Big Bobby, she get it from her mama. Congolese, but she no speak Lingala. No palava and no wahala. Come and yam this good cassava. Oh, she love the way that I do. She don't drive, so I call her the Uber. She call me super, super duper. Come to my house, I can give you this. Oh, yeah. Oh, come show me what come, you're feeling. Come, 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 come show me what you're feeling. Oh, titty, come wine on it. Oh, go slow, take your time. I really love the way you whine on it. FaceTime while you move your waistline on it. Parlez-vous français? She said, oui, j'ai parlé français. Lingala, Adja, chez 7 milliards de voisins. Et tout de suite, on donne la parole à Marie-Rose Moreau. Pourquoi les ados aiment s'engager? La chronique, comme chaque vendredi.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, c'est la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez aussi la revue transculturelle L'Autre. Toutes vos chroniques parents, enfants, d'ici et d'ailleurs sont disponibles en podcast. Et là, on est dans le deuxième épisode de cette nouvelle série qui concerne l'adolescence, qui suscite évidemment beaucoup de questions, de mystères. Deuxième sujet sur l'adolescence, pourquoi les adolescents aiment s'engager?
Oui, on a vu, vous vous souvenez, Manuel, la dernière fois, combien l'adolescence est un tourbillon. Les adolescents doivent aussi, à cette période de grandes transformations, construire leurs valeurs et s'affirmer comme des personnes autonomes et capables de défendre leurs propres valeurs. Christeva, d'ailleurs, dit que... Christeva, qui est une psychanalyste française, dit que les adolescents sont des révoltés, mais aussi des croyants. Mais à quoi croient-ils, ces adolescents? Sans doute à un idéal, parfois, à plusieurs, à des idéaux.
Est-ce qu'il y a un désir d'engagement chez tous les adolescents, y compris chez ceux dont on a l'impression qu'ils sont très blasés, très, très lymphatiques, et si oui, pour défendre quelles valeurs, dans le fond ?
Bien sûr, tous les adolescents n'expriment pas leurs engagements de manière active et de manière claire, et c'est vrai que parfois ils ont l'air lymphatiques, on a l'impression qu'ils ne pensent à rien ou qu'ils ne croient à rien, mais en réalité, justement, ils cherchent, ils sont attachés, parfois d'ailleurs ils sont pris dans des contradictions, mais ils sont dans un processus où, même si ça ne se voit pas, à des yeux d'adultes en particulier, ils cherchent à construire leurs valeurs, à les expérimenter. Et bien sûr, ils croient au meilleur, au plus pur, à l'absolu. Pour eux, s'engager, c'est des valeurs, mais c'est aussi une manière d'être, une manière de faire. Par exemple, je crois à des valeurs écologiques et je vis de telle ou telle façon. Parfois, je l'impose d'ailleurs autour de moi. Et tous les vendredis, je manifeste. Ou bien sûr, on peut faire avec d'autres valeurs, mais aujourd'hui, les valeurs écologiques sont fortes chez les adolescents. Et ces valeurs auxquelles ils croient, elles sont d'autant plus importantes pour eux qu'elles sont propres, elles appartiennent à leur groupe, à leur...
Elles sont partagées, finalement.
À leur génération, voilà, elles sont partagées avec d'autres, mais elles sont différentes de celles de la génération d'avant. Et d'ailleurs, ça rend parfois un peu caduque celles de la génération antérieure, qu'ils traitent d'has-been, de dépassées, d'archaïques. Donc ces valeurs, non seulement les font rêver, leur donnent des objectifs et des buts, mais en plus, ça leur permet de bien se différencier de la génération de leurs parents.
Et les adolescents sont toujours engagés.
Dans l'histoire, par exemple, si on regarde un petit peu plus loin, on se rend compte que toujours et partout, il y a eu des manières de s'engager à l'adolescence. Alors, par exemple, dans l'Empire ottoman, on parlait déjà des janissaires, qui étaient des adolescents qui, de gré ou de force, étaient enlevés à leurs parents et partaient faire la guerre. C'était des guerriers redoutables, pas seulement parce qu'ils n'avaient rien à perdre, ils avaient par exemple perdu leurs parents, mais parce qu'ils allaient jusqu'au bout. Et ça, c'est une caractéristique des adolescents. Pareil dans la guerre d'Espagne, beaucoup plus près, bien sûr, ou dans la résistance française. De très, très jeunes se sont engagés. Ils ont pris des risques incroyables pour se battre contre les franquistes ou contre les nazis. On en parle aujourd'hui comme des héros, mais on oublie que ce sont des adolescents qui parfois se sont opposés à leurs parents, mais aussi à la société, pour se battre pour leurs idéaux de liberté. Les historiens, d'ailleurs, c'est beaucoup les étudient actuellement, et ils ont montré l'ambivalence des combattants à l'égard de ces têtes brûlées, qui souvent mentaient sur leur âge pour pouvoir se battre, et puis aussi qu'ils le faisaient d'une manière casse-cou, quoi.
Oui, et on retrouve certaines figures chez les enfants soldats, d'ailleurs, sur le continent africain.
Exactement.
Aujourd'hui, quelle forme ça prend dans nos sociétés ? C'est, en dehors de l'engagement guerrier, qui heureusement n'est pas le plus répandu, mais c'est quoi ? C'est la préservation de la planète que vous citiez, du climat qui domine aujourd'hui ?
Alors effectivement, il y a énormément de valeurs écologiques. Le climat, bien sûr, la planète, les déchets, la répartition. Il y a aussi donc des idéaux...
La lutte contre les inégalités.
Voilà, des idéaux, la lutte contre les inégalités.
L'injustice, oui.
L'injustice, quelle qu'elle soit. Et puis, bien sûr, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, la radicalisation islamique dans le monde entier, pour ne citer que quelques exemples. Et ce qui pose problème, c'est la violence qui peut accompagner ces engagements jusqu'au boutiste. Une violence extrême qui va avec la notion de pureté, d'absolu ou de « je n'ai plus rien à perdre ». Par nécessité, ils se positionnent contre les adultes et cherchent activement à prendre leur place, quitte à l'arracher si on ne leur donne pas. C'est cette violence-là qui pose problème pour eux et pour la société. Mais il faut le reconnaître, à l'adolescence, s'engager, c'est souvent une nécessité pour exister.
Et il vaut mieux que les adultes le sachent dès le départ. Et d'ailleurs, pour en savoir un peu plus, il faut vous lire Marie-Rose Moreau, « Quand l'adolescence s'engage, radicalité et construction de soi ». Le livre est édité chez InPress. Toutes les références sur notre page internet 7 milliards de voisins et bien sûr sur les podcasts. On peut vous écouter toutes les chroniques, tous les sujets, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. C'est la chronique de Marie-Rose Moreau sur les plateformes de téléchargement. Le prochain épisode sur la série sur l'adolescence, avec vous Marie-Rose, ce sera « Pourquoi les adolescents aiment être en groupe ?» Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions et nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Lundi, 7 milliards de voisins, on parlera de la vidéosurveillance dans les villes. Flicage ou sécurité, c'est à vous de nous répondre avec toujours le même numéro de téléphone et vous ne serez pas filmé. 33 1 84 22 71 71. Très bonne fin de semaine, les voisins et les voisines. À lundi.